Yassine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Il vit seul avec son fils de 10 ans, Ziad. Ce dernier a un lien particulier avec un couple de girafes. Malheureusement, une nuit après un raid aérien dans la région, le mâle meurt et Rita, la femelle, ne peut pas vivre seule et se laisse doucement mourir au grand désespoir de Ziad. Yassine doit de toute urgence lui trouver un nouveau compagnon, mais le seul zoo qui pourrait l'aider se trouve en Israël, à Tel Aviv, où travaille un ami israélien du vétérinaire. Avec la complicité d'une journaliste française, le père et le fils planifient un enlèvement. Comment rendre compte du conflit israélo-palestinien autrement? Et comment, en somme, émouvoir simplement sur un sujet qui n'en finit pas de diviser les uns et finirait par indifférer les autres? La réponse vient de Rani Massala, jeune réalisateur d'origine palestinienne, et s'intitule « Girafada », qui est son premier long métrage. Un film à la frontière du réel et de l'imaginaire, mais aussi de la Palestine et d'Israël. Une sorte d'allégorie limpide de la situation des territoires occupés, Girafada touche et marque même par sa simplicité, sa mélancolie et sa charge symbolique. Car quand on voit une girafe franchir la frontière, la mythologie n'est plus loin. Girafada a été présenté sur la dernière édition du Arras Film Festival dans la catégorie Cinéma du Monde, et j'ai bien sûr eu le plaisir de m'entretenir avec Rani, le réalisateur. On évoque avec lui l'histoire de son film, mais surtout, il nous aide à mieux comprendre le conflit israélo-palestinien de l'intérieur.
Pour situer l'action, où s'est déroulé le tournage exactement ?
Le tournage du film a eu lieu en Palestine, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, dans la ville de Naplouse, qui est la plus grande ville de Cisjordanie, et aussi dans la ville de Qalqilya, où se trouve ce zoo qui existe vraiment. Puis il y a une partie du tournage aussi qu'on a fait en Israël, notamment le... Je ne vais pas dévoiler tout le film, mais bon, pour les scènes de girafes qui ont eu lieu là-bas, ouais. On a fait 5 semaines de tournage, dont 4 et demi en Palestine et 3-4 jours en Israël.
C'est votre premier long métrage et apparemment vous n'étiez pas destiné à faire des études de cinéma et faire du cinéma.
Oui, je suis un peu tombé dans le cinéma par hasard, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, j'ai étudié la science politique et le management avant, et quand j'ai appris cette histoire de girafe, qui s'inspire donc d'un fait divers réel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une girafe qui a été, qui est morte dans ce zoo palestinien au début des années 2000, dans le contexte de la seconde intifada, je me suis inspiré de ce fait réel et j'avais envie de raconter une histoire, et donc au début je ne savais pas si j'allais faire un livre, si j'allais traiter ça de manière documentaire, puis rapidement je me suis vite rendu compte que la fiction c'était le meilleur moyen de faire dégager des émotions et d'accompagner mon récit par rapport à l'histoire que j'avais envie de raconter du contexte palestinien. Ouais.
Vous avez éventuellement rencontré les personnes qui ont vraiment vécu cette histoire au cours de ce tournage ?
Bien sûr, en fait je travaille en collaboration avec le docteur Samir Khader qui est le vétérinaire du zoo de Qalqilya. Donc le personnage du vétérinaire est en partie inspiré de lui et lui-même le soir du bombardement qui a conduit à la mort de la girafe, il était là, il a essayé tout fait pour essayer de sauver cette girafe et puis tous les habitants de Qalqilya, vous savez, vivent sous occupation depuis très longtemps et donc ils sont dans un contexte qui est le leur, qu'ils connaissent et ils ont eu envie qu'on raconte leur histoire. Ouais. Mais après, il est vrai qu'on s'est inspiré de cette histoire pour raconter d'autres choses de manière plus métaphorique sur le conflit israélo-palestinien, mais ils étaient très fiers qu'on vienne dans leur ville, qu'on s'associe à eux, qu'on ait tous ces échanges les uns avec les autres, parce qu'il y a eu une équipe internationale, et ils étaient très heureux d'avoir une équipe de cinéma chez eux, et ça s'est très bien passé, ça s'est encore mieux passé que ça aurait pu se passer dans n'importe quelle autre région, même en France, quoi. Il y a des tournages qui sont plus difficiles que tourner en Palestine, et même ça paraît étonnant. Ouais.
Alors ce jeune acteur, Ahmed Bayata, il était déjà acteur avant ?
Non, pas du tout. En fait, Ahmad a tourné dans mon premier court-métrage où il avait un second rôle. Mais il a pris tellement tout le monde de court sur le court-métrage parce qu'il était tellement énergétique, il avait tellement envie que naturellement je lui ai donné ce rôle dans le long. C'est pas un acteur du tout. On peut pas être acteur à 10 ans. Enfin, donc on l'a formé, on l'a coaché, et puis là on a été beaucoup aidé aussi par l'acteur principal qui a répété avec lui en amont du tournage. Ça a été un vrai travail, mais c'est quelqu'un formidable ce petit gars parce qu'il était très motivé, il donnait tout sur le plateau, c'était le premier arrivé le matin, le dernier à repartir le soir. Enfin, il a tout donné pour le film, il s'est abandonné pour le film, et c'est ça qu'on demande d'un comédien.
Ouais. Et alors, il y a un épisode dans ce film qui est assez frappant, c'est celui des colonies. Alors, pour les auditrices, auditeurs qui ne connaissent pas encore vraiment ce que c'est, pouvez-vous nous en parler un peu, nous dire deux mots ?
Bien sûr, les colonies, c'est quelque chose déjà qui est condamné par la communauté internationale et en plus qui est considéré comme illégal au regard du droit. Les colons sont des gens très agressifs qui viennent, qui s'accaparent les terres palestiniennes sous prétexte que ça fait partie de ce qu'ils appellent le Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas la Palestine, et ils ne reconnaissent pas le peuple palestinien, ils nient en fait leur existence. Et ils viennent sur les terres de Cisjordanie, ça commence à temps en temps avec un mec, deux gars, deux colons. Ils prennent les terres et décident que ce sera chez eux. Et après, petit à petit, des colonies se forment, des gens viennent, des constructions mobilhomes se font. Et il y a des villes qui poussent sur des terrains palestiniens, alors que c'est pas comme s'il n'y avait pas la place en Israël pour ces gens qui sont israéliens de rester en Israël et pas venir en plus empiéter donc, sur les territoires de Cisjordanie. C'est quelque chose qui est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui se développe de plus en plus. Encore aujourd'hui, il y a eu l'annonce par le gouvernement Netanyahou qu'il va y avoir encore plus de colonies qui vont être faites dans les territoires palestiniens. C'est quelque chose qui sape les efforts de paix, qui sape la confiance et qui est très dangereux, même d'un point de vue moral, si vous voulez, par rapport au conflit israélo-palestinien, par rapport à Israël même, enfin, on ne peut pas comprendre, si vous voulez, que des Israéliens, alors qu'ils ont leur pays, ils ont, entre guillemets, tout ce qu'ils ont dont besoin pour vivre normalement de leur côté, donc viennent empiéter sur les terres palestiniennes à travers ces hommes qui sont des extrémistes religieux, parce qu'il faut employer ce terme, parce que c'est le cas, et d'une violence inouïe, quoi. Ouais.
Alors, il y a aussi toutes ces scènes qui sont filmées dans ce qu'on appelle les checkpoints. Comment ça se passe exactement ? Est-ce que vous avez recréé les endroits ou c'est les vrais checkpoints avec évidemment les vrais soldats qui sont toujours présents ?
Le checkpoint du film, c'est un vrai checkpoint, c'est pas un décor. Maintenant, on a eu la chance de pouvoir tourner là-bas parce que dans mon équipe, en fait, il y avait un producteur exécutif qui était un Palestinien d'Israël, si on peut en nommer ainsi, c'est-à-dire qu'il avait les contacts du côté israélien. Pour pouvoir tourner du côté israélien. Et puis, on n'a pas dit toute la vérité, on va dire, sur notre intention en arrivant au checkpoint, en leur expliquant qu'on faisait un documentaire et qu'on n'allait pas rester très longtemps. Et on devait passer la journée là-bas, mais au bout de 3 heures, on s'est fait dégager. Maintenant, toutes les scènes du checkpoint, c'est des scènes que j'ai vécues, que des camarades à moi ont vécues, que des Israéliens qui travaillent avec nous ont vécues. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a rien d'inventé. La violence sociale et l'humiliation qu'on a à ces checkpoints, qui ne sont pas une frontière entre les territoires palestiniens et Israël, qui sont des checkpoints qui sont à l'intérieur même des territoires palestiniens, entre deux villes palestiniennes, entre deux villages palestiniens, même au milieu d'un même village. Donc, si vous voulez, c'était très important pour nous de recréer ça. Et on a eu la chance, justement, d'atterrir dans ce checkpoint où on a su la veille pour le lendemain qu'on pouvait aller tourner là-bas. Bah écoutez, on a sauté sur l'occasion et puis oui, le décor est terrifiant, mais c'est comme ça qu'il est. Enfin, il existe ce checkpoint, on l'a pas inventé. Ouais. Et il y en a énormément en Cisjordanie. C'est-à-dire que la Cisjordanie aujourd'hui, qui est censée être donc les prémices du futur État palestinien avec Gaza, est complètement entrecoupée et de checkpoints et de colonies. Donc il y a aucune continuité territoriale qui se fait entre les différentes villes palestiniennes. Donc c'est très difficile sur le terrain. D'envisager une nature étatique, parce que la nature étatique veut dire frontière, veut dire continuité territoriale et liberté de circulation et de mouvement des gens et des marchandises au sein d'un même État. Enfin, c'est ce qu'on appelle donc la souveraineté nationale qu'on peut avoir dans n'importe quel autre pays. Et donc cette souveraineté est complètement bafouée par ces checkpoints et par ces colonies qui viennent polluer le processus de paix israélo-palestinien. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui empêche les Palestiniens et les Israéliens de se mettre d'accord, mais c'est quelque chose qui est illégal, et j'insiste bien sur ça, au regard du droit international, au regard des Nations Unies, alors qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Israël a été créé par un vote aux Nations Unies. وصلي عليه
Vous êtes français, mais d'origine palestinienne. J'imagine quand même qu'il y a un parti pris dans ce film. Et puis notamment, ce qui est un peu frappant et ce qui est même très humoristique, c'est un peu les soldats israéliens tournés un peu en ridicule, la façon dont ils braquent la girafe. En fait, et ça se passe vraiment comme ça. Ils sont aux aguets à chaque fois, tout le temps comme ça.
Écoutez, le parti pris, moi je vais vous dire une chose. Tous les gens qui ont voyagé dans les territoires palestiniens, qui y sont allés, palestiniens ou pas, israéliens ou pas, on peut pas ne pas prendre parti une fois qu'on arrive sur place et qu'on voit ce qui s'y passe pour de vrai. Et pas forcément quelque chose qui est dans les médias en France, on voit pas tout, on nous parle uniquement des attentats ou des colonies, mais finalement on visualise pas ce que c'est, on comprend pas ce que c'est au quotidien dans la vie des gens. Le film a été tourné d'un point de vue palestinien, c'est-à-dire en se plaçant dans le point de vue de quelqu'un qui vit en Palestine, qui travaille au zoo, qu'est-ce qu'il voit lui de la situation ? Donc manifestement, il y a des checkpoints et un mur, et il n'a pas de papier, donc il ne peut pas voyager, il ne peut pas aller en Israël, un Palestinien, vous voyez, en tout cas plus maintenant. Et en tout cas dans le contexte de la Seconde Intifada, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Donc qu'est-ce que voit un Palestinien alors qu'il est chez lui ? Il voit des soldats israéliens qui occupent son territoire, il voit des colonies qui poussent comme des champignons sur ses champs, dans les champs de ses voisins. Donc l'imagerie de l'Israélien pour le Palestinien qui vit enfermé, parce que c'est le cas, c'est uniquement des soldats et des colons. J'ai pas voulu tourner en ridicule les soldats, j'ai voulu parler d'une situation un peu burlesque, un peu folle de se dire « qu'est-ce que tu fais si tu vois une girafe avancer vers toi alors que ton supérieur militaire te dit qu'on peut pas laisser un animal sauvage menacer la sécurité ?» Après, c'est une sorte d'ironie. Il y aura toujours des gens qui diront que certains personnages du film sont caricaturaux. Par exemple, le directeur du zoo aussi, qui représente la corruption de l'autorité palestinienne, il est caricatural, oui. C'est un parti pris, oui. Les soldats, pareil, ils peuvent alterner beaucoup de violence lors d'arrestations, notamment les scènes de nuit dans les ruelles pendant le couvre-feu. Et ce côté un peu absurde, si vous voulez, quand ils voient une girafe arriver vers eux, ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont un peu déboussolés, mais je m'imagine à la place de ces gamins de 18 ans, parce que c'est quand même ça dont on parle, hein, les soldats qui sont dans les territoires palestiniens, à voir arriver une girafe, qu'est-ce qu'ils font ? C'est impressionnant, une girafe. Mais moi, je vous dis, au début de la préparation du film, quand je voyais cette girafe de 5 mètres de haut, j'avais peur. Elle fait très peur, c'est très puissant. Avec un coup de sabot, ça peut tuer un lion, vous voyez ? Donc, c'est un animal puissant. C'est pas juste un animal qui est féerique à travers le regard d'un enfant. Mais quand on le voit, il y a une sorte de majesté. Et puis, j'aimais bien cette idée qu'une girafe qui fait 5 mètres de haut, donc qui regarde les hommes d'en haut, vers le bas. Donc il y avait un certain dédain finalement face à ces hommes en armes. Et puis j'ai voulu condamner l'institution, vous voyez, armée, l'institution, guerre. C'est le film, il n'y a pas de parti pris contre les gens. C'est pas un film contre le peuple israélien. C'est un film contre la machine qui est là, qui est machine d'occupation dans les territoires. Cette utilisation de l'État israélien, de son pouvoir militaire à l'encontre d'un peuple qui est un peu démuni, qui est complètement martyrisé, si vous voulez, dans cette ambiance qui est une prison à ciel ouvert, la Cisjordanie aujourd'hui. C'est ça le compte, c'est ça la vérité, en fait. Allez-y, allez voir de vos propres yeux. Vous savez, prenez un voyage à Tel Aviv et passez de l'autre côté. Vous verrez c'est quoi la sensation qui vous traversera. Le film, c'est ça, c'est un voyage. Je vous montre ce qui se passe de l'autre côté et pas uniquement du côté trop souvent vu dans ce genre de contexte de film, c'est-à-dire du côté israélien de quelqu'un qui veut faire la paix avec son voisin. Là, je mets le contexte du film par rapport à un Palestinien. Qu'est-ce qu'il voit, lui ? Parce que c'est toujours facile de prendre un point de vue. Et on peut se demander, est-ce que le film est militant ? C'est pas ça le but. Je suis pas dans du militantisme pur et dur. Il y a aussi un peu d'imagination, tout ça. Enfin, l'histoire travaille autour d'une girafe, d'un enfant, de l'enfance. Parler de l'enfance, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce contexte, vous voyez ? Parce qu'ils sont différents, ces petits Palestiniens, dans le sens où le zoo, c'est le seul endroit où un enfant a vraiment le droit d'être un enfant. Parce que sinon, en territoire palestinien, c'est quoi être un enfant ? C'est passer le checkpoint pour aller à l'école ? C'est pas aller à la mer alors que ça se trouve à 13 km de chez toi parce qu'il y a un mur de 9 mètres de haut ? C'est ça ton quotidien et ta réalité. Voilà. Et c'est très important que le public voit ça et se pose les bonnes questions. Thank you.
ce petit garçon justement qui n'est pas pratiquant dans le film et qui a une foi complètement monumentale et en même temps tout à fait naturelle. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette foi où il prie beaucoup ?
En fait, la foi qu'il a, c'est pas tant une nature où il suivrait une religion, parce que il parle, là je parle même pas de chrétienté ni d'islam dans les scènes où l'enfant prie, mais il y a un côté en fait presque ludique dans sa prière où il demande à Dieu quelque chose, parce qu'il il vit dans un pays qui est 3x5 quand même, où ce rapport à la religion est très présent, faut pas se le cacher d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les deux protagonistes principaux du film sont laïcs, et c'est des hommes de science, c'est des vétérinaires, donc cet enfant il a ce rapport à Dieu, à l'existence, c'est un rêveur, il est un peu autiste aussi dans sa condition par rapport aux animaux, parce qu'il finalement il communique mieux avec les animaux qu'avec les jeunes gens dans le film où il est méprisé, il est chahuté. Et finalement, les seuls autres enfants avec qui il fait la paix, c'est avec les petites filles israéliennes quand ils se tapent dans les mains l'un de l'autre. Maintenant, son rapport à Dieu, il vient du côté du mystique. Et puis, je me suis beaucoup inspiré de moi-même de manière très lâche. Quand j'étais petit, quand je voulais quelque chose très fort, je demandais à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi ça ou aide-moi à faire ça. Et puis, je ferai ça en échange ou en retour. Donc, c'est plus quelque chose côté ludique, si vous voulez, que côté purement religieux. Mais il y a une sorte de spiritualité, si vous voulez, chez cet enfant qui est proche de la nature, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui réfléchit sur Dieu, sur l'existence, sur le... Voilà, c'est un peu absurde, quoi. C'est plus dans ce domaine-là plutôt qu'autre chose, en fait.
Ouais, je pense qu'on est d'ailleurs tous un peu comme ça. Hein. Dernière question, vous avez des projets apparemment un peu farfelus, j'ai entendu dire.
Oui, je travaille sur deux films en ce moment, enfin deux développements de scénarios. Donc une histoire d'amour qui se déroule dans le contexte du quartier des chiffonniers au Caire, dans le cadre de ce qui s'est passé en 2006, c'est-à-dire le massacre des cochons par l'État égyptien face à la propagation de la grippe H1N1. Donc voilà, c'est une histoire comme ça d'amour un peu folle dans ce contexte-là. Et un autre projet de comédie où je pars du postulat complètement fou que Elvis Presley est palestinien, qu'il est encore en vie, qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Et il s'échappe de cet hôpital et il se retrouve pourchassé par les agents de la CIA qui veulent éteindre l'affaire pour ne pas propager la rumeur qu'Elvis est un arabe. Oui, voilà, une vraie comédie, ouais, assumée.
Bah, j'espère que vous viendrez nous le présenter sur le festival. Je vous remercie Rani Masala et puis je vous souhaite bon vent et plein de bonnes choses pour Girafada.
Merci beaucoup, merci.
C'était un entretien avec Rani Masala qui présentait son premier long métrage, Girafada, dans la catégorie Cinéma du Monde du Arras Film Festival 14e édition. Le film sera sur les écrans français le 23 avril 2014. من الدية والدنيا جاية لسه ما عشناهاش وللصبية اللي الهوى شالها وطرف شالها في الهوى رعاش والغنوة العاشقين عدلا لما القلوب قالت والصوت ننحاش والأهلنا الجدعان والأصلاح وللصبايا